comment se fait-il que le DVD ait été inventé? Comment se fait-il qu'il ait eu du succès? Qu'est-ce que le DVD a changé dans le langage cinématographique? Et puis, quel est l'avenir du DVD? Ça, c'est par rapport à la fois à des questions de fond sur le cinéma, sur le marché, et puis à la fois à des questions qu'on peut légitimement se poser. Je vais me faire un petit cadeau, j'achète quoi? J'achète un Blu-ray ou un HD DVD? Enfin, voilà, il y a aussi toutes ces questions-là. Il y a aussi quelque chose, c'est une question toute bête, c'est quelle est la différence entre le DVD que je grave chez moi et puis le DVD que j'achète dans le commerce. Comment ça se fait que c'est pas la même chose? Essayez de voir un petit peu les détails de ça. Et puis, je vous ai parlé d'autoring au tout début. Derrière cette galette de 12 cm qu'on met dans son lecteur, il y a des métiers assez particuliers, des nouveaux métiers dont je peux vous parler aussi. Voilà, et puis si jamais vous avez envie d'aller plus loin, je pourrais vous donner éventuellement quelques petits secrets de fabrication qui peuvent vous intéresser. Je vais commencer par un tout petit historique rapide pour resituer les choses ensemble. Et puis n'hésitez pas à me couper quand vous voulez, hein, vous levez la main. Parce que l'objectif, c'est pas que je vous raconte des trucs auxquels vous compreniez rien. Si jamais il y a un terme technique ou quelque chose qui n'est pas clair, vraiment, vous n'hésitez pas, je suis là pour vous. Alors, si vous voulez, le principe de conception du DVD au départ, c'est un principe commercial. C'est-à-dire que pourquoi le DVD a été inventé? C'est simplement pour gagner de l'argent. Hein, au départ, il faut quand même pas se leurrer. Le cinéma, c'est une industrie. C'est dans cette industrie, bien sûr, des artistes peuvent s'exprimer, mais c'est avant tout une industrie. Et ce qui s'est passé, à la fin des années 80, c'est qu'un certain nombre d'industriels se sont réunis et se sont dit, bon, on va essayer de trouver le successeur de la VHS. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être certains n'étaient pas là à l'époque, mais lorsque la cassette vidéo était sortie commercialement, il y avait trois formats qui s'opposaient. Il y avait le VHS de JVC, le Betamax de Sony et le V2000, de chez V2000, je crois, de Thompson, voilà, ah, tout à fait. Et si vous voulez, sur le marché, il y avait trois types de cassettes vidéo. Et d'ailleurs, à l'époque, dans les premiers vidéoclubs qui avaient ouvert, alors, il y avait les V2000. Alors, les V2000 c'était le meilleur format techniquement. Et puis ensuite, les autres, le Betamax était un peu moins bien. Et le pire, c'était le VHS. C'était vraiment le plus mauvais, techniquement parlant, format. Et il se trouve que donc, ça peut pas marcher, des formats concurrents comme ça. Enfin, je veux dire, logiquement, pour un éditeur, c'est-à-dire que un éditeur, c'est quoi? J'édite un livre, tout le monde peut le lire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'une machine spéciale pour le lire. J'édite un film que quelqu'un peut acheter. Il faut que tout le monde puisse le lire. Mais le problème, c'est que le magnétoscope à l'époque, il fallait un V2000 ou un Betamax ou un VHS. Je ne pouvais pas mettre une cassette V2000 dans un magnétoscope VHS. Vous voyez, c'était ça le problème. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le marché a fait sa loi et il se trouve qu'il y a un format qui s'est imposé et qui a enterré les deux autres. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. C'est le VHS. C'était pas forcément le format de meilleure qualité. Et pour faire le lien avec aujourd'hui, si vous voulez, aujourd'hui, sur le DVD de demain, c'est-à-dire le DVD haute définition qui existe déjà, on a à nouveau, bêtement, deux formats qui s'affrontent, le Blu-ray et le HD DVD. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais si vous voulez, à la fin des années 80, les industriels ont essayé de se mettre d'accord. D'ailleurs, comment ça se fait? C'est pour vous éclairer aussi sur la raison de cette guerre absurde entre le Blu-ray et le HD DVD. Comment se fait-il que des industriels lancent comme ça des produits différents? Et bien, vous savez, quand on invente un format, que ce soit de cassettes vidéo ou de disques vidéo, eh bien, il y a un certain nombre de brevets, c'est-à-dire que ce sont des inventions, c'est des systèmes technologiques qui sont brevetés. Tout ça, c'est dans le domaine privé, c'est pas dans le domaine public. Et par conséquent, chaque fabricant, par exemple, de magnétoscope VHS, à l'époque, hein, aujourd'hui, ça s'abrique presque plus, mais chaque fabricant de magnétoscope VHS devait reverser une certaine somme à JVC, qui était l'inventeur du format. Vous voyez? Donc même si je suis Sony et que je fabrique un magnétoscope VHS, je dois donner de l'argent à JVC. Et même si je fabrique une cassette VHS vierge, je dois donner de l'argent à JVC pour chaque cassette. C'est exactement pareil pour le DVD. Je presse un DVD dans une usine de pressage DVD où on en presse des millions, et bien l'usine de pressage doit reverser une certaine somme au consortium, ce qu'on appelle le DVD Forum, qui est en fait ce consortium d'industriels qui se sont rassemblés pour créer le format. Donc il y a les disques et puis les lecteurs. Donc si vous voulez, il y a un enjeu financier au-delà de la vente des films pour les éditeurs, etc. Il y a un enjeu financier énorme, c'est-à-dire que celui qui emporte le morceau, il a une sorte de rente faramineuse pendant un certain nombre d'années. Mais il se trouve qu'à l'époque, ils ont réussi à se mettre d'accord et ils ont conçu un standard. Alors un standard, en fait, c'est quoi ? C'est un ensemble de... C'est ce qui avait été fait avant sur le CD audio. C'est un ensemble de règles, si vous voulez, extrêmement précises, qui déterminent quelle est la structure de l'information sur le DVD, quelle taille ont les images, quels sont les formats du son, comment marchent les menus, etc., etc. C'est un document d'à peu près 900 pages, si vous voulez, qui décrit toute la norme DVD. Et ce qui a été assez intéressant dans l'histoire du DVD, c'est que cette norme, il y en a une seule qui a été définie, et puis ensuite, les fabricants de lecteurs et les fabricants de DVD sont censés tous respecter cette norme. C'est-à-dire que, en théorie, un DVD fabriqué, je ne sais pas moi, aux États-Unis, va pouvoir marcher sur un lecteur. Alors après, il y a l'histoire du zonage, on en parlera après, mais va pouvoir marcher sur un lecteur en France ou en Russie ou peu importe. C'est-à-dire qu'il y a une compatibilité totale partout. C'est-à-dire que outre le zonage, hein, qui est un choix commercial, qu'un DVD ne puisse pas être lu dans telle ou telle région. Mais techniquement, ça peut passer partout. Il y a aussi la nuance entre le PAL et le NTSC, qui nuance un peu ce que je suis en train de dire, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et si vous voulez, il y a plusieurs raisons qui ont fait le succès du DVD, mais il y a déjà une raison technique de compatibilité. Par exemple, prenons le CD-ROM. Il y a un fameux CD-ROM très intéressant de Chris Marker qui s'appelle In Memory, qui a été fait en 1997. Aujourd'hui, ce CD-ROM, vous le mettez dans un ordinateur, il ne marche plus. Pourquoi ? Parce que les ordinateurs ont évolué, les normes ont évolué, les systèmes d'exploitation, que ce soit le Macintosh qui évolue, le PC avec des versions de Windows, Linux et tout ça, ça évolue très vite. Et il n'y a pas de normes extrêmement stables. Si vous voulez, c'est un petit peu pour ça que l'édition multimédia, qui à la fin des années 90 était vraiment sur le devant de la scène, ça n'a jamais marché, ça ne s'est jamais vraiment vendu, il n'y a jamais eu un marché de masse, du fait des problèmes de compatibilité, ne serait-ce qu'entre Mac et PC. Je veux dire, voilà, vous avez un CD-ROM qui va marcher sur PC, pas forcément sur Mac. Et ça c'est... Vous m'entendez encore ? À peu près. Bah écoutez, on est en musique, hein, c'est la fête. Ça m'a juste un petit peu fait perdre le fil, hein, cette histoire, excusez-moi. C'est donc une norme extrêmement contraignante. Alors tout le monde s'en plaint, c'est-à-dire que la norme DVD vidéo est extrêmement contraignante. Et c'est sa force. C'est-à-dire qu'en termes d'usager, je vous montrerai tout à l'heure comment on fabrique un DVD avec l'ordinateur. Donc c'est un petit peu galère, c'est-à-dire que souvent on fait un DVD à la maison, Et puis, en fait, il marche pas sur l'ordinateur du voisin, ou il marche pas bien sur un lecteur, ou l'image saute, etc. C'est-à-dire qu'il y a des règles extrêmement précises qu'il faut respecter pour que le DVD marche. Mais c'est la force du DVD, cette norme. Elle n'est pas si simple à respecter. Je prends un exemple. En 2001, Disney a sorti un DVD du Roi Lion. Il se trouve que le DVD en question ne démarrait pas, ne marchait pas du tout sur 40 modèles de lecteurs de salon. À l'époque, il devait y en avoir 200-300, mais sur 40 d'entre eux, le DVD ne marchait pas. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un truc assez sophistiqué, assez interactif, et ils avaient, eux, respecté la norme DVD vidéo, mais ils n'avaient pas mesuré que les fabricants de lecteurs, eux, chacun interprète la norme un petit peu à sa manière. C'est ça qui est assez paradoxal avec les normes. C'est que si vous voulez, c'est comme avec les, à une époque avec les caméscopes mini DV Sony. Si vous mettiez une cassette mini DV TDK, ça marchait pas bien. Il fallait mettre une Sony. Et pourtant, c'était la même norme mini DV. Vous voyez, il y a chacun un petit peu son interprétation. Et donc, ce qui est compliqué quand on est éditeur DVD, c'est qu'il faut s'assurer que le DVD va marcher sur tous les lecteurs. Il faut prendre en compte, il faut anticiper les éventuels défauts des lecteurs. Donc il faut à la fois respecter la norme, mais à la fois, il faut en connaître un petit peu les interprétations qui en ont été faites par l'un ou l'autre, pour être bien certain que son DVD passe partout. Oui, peut-être prenez un micro, comme ça. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est plutôt, moi je dirais, par exemple, pour citer personne, les DVD MK2, ils ne marchent pas bien sur les ordinateurs, vous voyez ? Les vidéoclubs le savent bien, voilà. Pourquoi donc on peut dire c'est la faute à qui ? C'est la faute au logiciel de lecture DVD sur les ordinateurs ? C'est la faute à MK2 ? Moi je dis il faut prendre en compte, la réalité du marché. Hein. C'est vrai que moi il m'est arrivé de discuter avec des grands studios d'autoring, là je ne citerai pas. En leur disant, mais écoutez, attendez, là, il y a un problème sur ordinateur, il y a un problème sur écran de télé, ça marche, mais sur ordinateur, il y a un problème. Et je m'entends répondre, mais pourquoi vous regardez votre DVD sur ordinateur ? C'est le marché, quoi. Je veux dire, il faut prendre en compte ça, même si on n'est pas d'accord, même si on trouve ça pas bien de regarder sur ordinateur. Il faut, d'ailleurs, c'est peut-être eux qui font les MK2, je sais pas qui fait les MK2, mais bon, bref. C'est dire que c'est pas si simple. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dans le métier des festivals de cinéma, qui est tout un univers hein, particulier, où les gens font leurs films, avant, les gens mettaient leurs films sur une cassette VHS, et puis envoyaient, proposaient leurs films comme ça au festival. Et puis, si vous voulez, au début des années 2000, lorsqu'on a pu avoir des graveurs DVD chez soi, etc., les gens ont commencé, au lieu de faire des VHS, à faire des DVD et à envoyer leurs DVD au festival. Et en gros, il y avait 2 DVD sur 3 qui marchaient pas avec les lecteurs parce que les logiciels n'étaient pas très bien conçus, etc. Et il y a eu une époque où les festivals de cinéma mettaient dans leur règlement surtout pas de DVD parce que ça ne marchait pas bien, quoi. C'était... Cette norme, justement, qui a sa force dès lors qu'elle est respectée. Et l'énorme succès du DVD l'a prouvé. Aujourd'hui, il est en perte de vitesse. Le DVD de film de cinéma est en perte de vitesse. Mais par contre, le DVD, comme on dit, hors film, c'est-à-dire le concert filmé, les autres choses, lui, il n'est pas du tout en perte de vitesse, il progresse toujours. Donc, c'est par rapport au cinéma, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une concurrence pas encore très importante, mais qui existe quand même de la VOD, Video On Demand. Et puis, il y a aussi le piratage, bien entendu, qui entre en ligne de compte. Alors, oui. attendez, prenez le micro parce que vraiment, je suis désolé, mais sinon, moi je vous entends pas et les personnes.
Oui.
On peut en parler. Qu'est-ce que vous voulez savoir là-dessus?
D'abord, le prix, souvent, des bébés plus tarifs sont entre 25 et 30 euros. Y compris des bébés de petites filles. Et alors, paradoxalement, on va attendre un an ou deux ans après, on va trouver le DVD à 6 euros, 3 euros dans un magasin. Et justement, quelle est la part, justement, qu'est-ce qu'on paye sur le prix de ce DVD par rapport à la conception, par rapport au prix du temps, les droits d'auteur? Et aussi, une deuxième question, c'est pourquoi certains films ne sont jamais en DVD?
Alors, c'est des questions très intéressantes, je vais vous répondre, je pense. Par rapport au prix, déjà, première question, et puis deuxième question, pourquoi certains films sortent jamais? Par rapport au prix, je vous suggère de commencer par la fin. Prix de vente en magasin, disons 20 euros, d'accord? Le magasin, disons la FNAC, touche une marge, ce qui est tout à fait normal, 40% du prix de vente, à peu près. Entre 45 et 35 en réalité. Donc déjà, on descend beaucoup. Hein. Ensuite, si vous voulez le DVD pour qu'il se retrouve dans un magasin, il a tout un parcours. Il y a en fait deux intervenants, le diffuseur et le distributeur. Le diffuseur, c'est la personne, c'est le commercial qui a un catalogue et qui va avoir les FNAC et autres librairies, et qui va pré-vendre, si vous voulez, le futur DVD à sortir. Il touche de l'argent, 10%. Et puis, il y a le distributeur, parce qu'une fois que le vendeur de la FNAC est très content et a choisi de commander tant de DVD, bien, il y a un métier qui s'appelle la distribution, c'est de la logistique pure, hein. Il faut acheminer les objets jusqu'au point de vente, et il faut aussi récupérer les invendus après. Enfin, il y a cette gestion-là de stock. Un petit 10% aussi. C'est-à-dire que le prix, si vous voulez, le coût de la distribution et de la vente, c'est-à-dire qu'il y a un éditeur qui fabrique un DVD, et ensuite il y a 60% du prix de vente public hors taxe, qui est pris par donc, le point de vente, diffuseur et distributeur. Donc sur un DVD à 20 euros, le prix de vente hors taxe, c'est 18, à peu près. Donc on enlève 60%, c'est 60% de 18, on va arriver à 8 euros à peu près, qui reste pour l'éditeur. D'accord ? Donc voilà. Donc maintenant, 8 euros. Qu'est-ce que ça paye 8 euros? Ben, si vous voulez, c'est intéressant votre question parce qu'elle me permet d'aborder un petit peu justement toute la chaîne de fabrication, qui est un sujet que je voulais aborder. On l'aborde par l'aspect financier, pourquoi pas. J'ai un projet de DVD. Et je suis par exemple, vous dites, j'ai adoré ce film. J'ai plein d'idées de promotion. Avec mes idées, je suis sûr que je vais pouvoir le vendre. Donc, je vais monter une société et je vais éditer ce film en DVD. Ok. Ça, c'est le métier d'éditeur vidéo. Donc, l'éditeur vidéo, au départ, il est tout seul. Il est comme vous et moi. Il monte une société, mais voilà, il est tout seul. Et il y a un film qui l'intéresse. Donc, il va voir qui ? Il va voir soit le producteur du film directement, mais plus souvent, il va voir le distributeur du film. C'est-à-dire qu'un film cinématographique, le producteur, c'est qui ? C'est généralement quelqu'un qui a porté le projet, c'est-à-dire qui a trouvé les financements, qui a apporté lui-même du financement, et puis qui a eu le talent de réunir une équipe de qualité, et qui a réussi à terminer ce film. Une fois que le film est terminé, généralement, après, il y a des métiers qui s'ensemblent. Enfin, généralement, son métier, c'est de faire un film de qualité. Je peux vous dire que c'est un sacré métier, c'est pas si simple. Et ensuite, ce film, il faut l'exploiter, c'est-à-dire le distribuer en salle, le vendre à la télévision, le vendre à l'international, etc. Et ça, c'est un autre métier qui s'appelle la distribution. Là, c'est la distribution cinématographique, hein. C'est pas la même que la distribution dans les librairies. Et le distributeur, eh bien, si vous voulez, ce qu'il fait, c'est qu'il achète, généralement pour un forfait de base qu'on appelle le MG, il achète les droits du film au producteur, il lui donne une certaine somme d'argent, et ensuite, il va vendre ce film, et puis, dès lors qu'il aura remboursé ce qu'il avait payé au producteur, ensuite, il y a un certain pourcentage versé au producteur. Vous décidez d'être éditeur DVD. C'est encore un autre métier. Encore une fois, il y en a qui font tout. Hein. Enfin, souvent, c'est quand même assez séparé, assez segmenté. Vous décidez d'être éditeur. Généralement, vous êtes face à un ayant droit, c'est-à-dire quelqu'un qui détient, par contrat, pendant un certain nombre d'années, les droits du film qu'il a acheté au producteur du film. Donc vous allez voir, donc, généralement, un distributeur de cinéma, vous lui dites, voilà, moi, je veux sortir votre DVD, je suis sûr, j'ai plein d'idées, je suis sûr, ça va faire un carton. Donc, qu'est-ce qu'il va vous dire? Vous n'êtes peut-être pas le seul, surtout si le film a de la notoriété, vous n'êtes peut-être pas le seul à être intéressé par le DVD. Donc, lui, il va avoir un raisonnement qui est tout à fait logique, il va vous dire, bah, écoutez, ok, tu me donnes une avance, exactement comme lui avait fait avec le producteur, tu me donnes ce qu'on appelle un MG, tu me donnes, je ne sais pas, moi, 100 000 euros, parce que dans ton business plan, tu espères tant de recettes, et puis quand tu te seras remboursé les 100 000 euros, ben, tu me paieras tant de pourcentage, et on fait un contrat entre nous. Donc premier point, il y a une dépense. Il y a une dépense, et puis il y a un pourcentage reversé à l'ayant droit. Sur ce pourcentage, il est assez important parce que, si vous voulez, le distributeur qui vend le film, il reverse au producteur. Le producteur, il touche de l'argent pour lui, mais le producteur, il reverse aussi aux auteurs du film. Hein? Le producteur, il est obligé, une fois par an, de faire ce qu'on appelle la reddition des comptes et de verser, parce que tout ça, c'est des contrats, hein? C'est contractuel entre des gens, tous les pourcentages sont prévus par rapport à tel mode d'exploitation. Et souvent, il y a un petit peu des arnaques, d'ailleurs, parce que c'est pas si simple. C'est-à-dire que, par exemple, un producteur peut dire à un réalisateur, écoute, voilà, tu auras 10% des entrées sales, bon, pour simplifier, et puis il écrit en petit que pour le DVD, il y aura 0,2%, vous voyez, et si on n'a pas fait gaffe, et ben, si le film n'a pas trop marché en salle et marche en DVD, vous voyez, donc c'est super important les contrats. Donc, ce pourcentage-là, c'est excessivement variable, il n'y a pas de règle, parce que si vous voulez, là je prends l'exemple d'un film commercial, on va dire, qui a marché, mais dans le DVD il y a aussi tout l'aspect patrimoine, si vous voulez, qui est très important, et les droits sont bien souvent beaucoup moins chers, ou des cinématographies étrangères, ou des choses comme ça, des catalogues qui sont déjà rentabilisés, qu'on n'achète pas cher, des packages de films, enfin vous voyez, tout ça c'est tout un monde, quoi, de rassemble. C'est assez bizarre de parler de package de films, mais bien souvent c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que, ok, tu m'achètes ce film-là qui est un peu porteur, mais je te le vends seulement si tu m'achètes les 10 autres et qui valent rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc après, vous, éditeur, faut vous débrouiller. Enfin voilà, c'est toute une logique. Donc, revenons aux 8 euros. Dans les 8 euros, donc, il y a une partie, généralement, en tout cas un pourcentage, et une partie peut-être forfaitaire au départ, que l'éditeur a payé à l'ayant droit, donc au distributeur. Alors combien ça représente? Il n'y a aucune règle là-dedans, mais sur un DVD vendu 20 euros en prix public, ça paraît pas anormal, qui est entre 1 et 2 euros qui soient quand même reversés au distributeur, qui vont reverser une partie au producteur, qui vont reverser une partie au réalisateur et au scénariste. C'est pas énorme, hein, ce qui reste au bout du compte sur un 20 euros de prix de vente. Hein. Bon, ça peut être un petit peu plus, ça dépend, mais vous voyez que le delta, il n'est pas très très grand. Parce qu'une fois qu'on a payé ces gens, les ayants droit, il faut faire deux choses. Il faut d'une part fabriquer ce DVD. Il faut faire trois choses, en fait. fait partie plus ou moins. Il faut fabriquer ce DVD. Alors fabriquer un DVD, on peut dire bah, c'est simple, bon bah je prends mon film, je le mets sur DVD. Sauf que ce qui est super intéressant dans le DVD, ce que le DVD a vraiment apporté au cinéma, c'est les bonus, c'est les chapitrages. Donc fabriquer un DVD, ça peut vouloir dire produire des films, des bonus, des making-of, des documentaires, acheter les droits d'autres documentaires qui ont déjà été faits pour les remettre dedans. Donc tout ça, c'est des frais aussi. Donc il faut bien les payer, vous voyez, sur ces fameux petits 8 euros qui nous restent. Alors il y a l'aspect donc préparation des éléments, c'est-à-dire dans le DVD, il y a le contenu, il y a le film, mais il y a tous les bonus finalement qui ont un coût aussi, évidemment. Et on sait bien que on apprécie beaucoup les bonus, et c'est aussi l'un des arguments de vente du DVD, c'est tous ces apports-là. Bon, une fois qu'on a rassemblé plein d'éléments et qu'on a encore une fois payé à des endroits, payé des réalisateurs, des techniciens, etc., il faut fabriquer à proprement parler la galette, quoi. Le premier DVD qu'on va copier un grand nombre d'exemplaires. Et ça, là, ça coûte quand même un petit peu, c'est-à-dire que pour un DVD standard, au début, en 99-2000, enfin au début du DVD, ça revenait quoi, 20 000 euros quoi, de la fabrication, l'encodage. Alors, je vous expliquerai après plus en détail qu'est-ce que c'est que l'encodage, etc. Mais il y a des opérations techniques, justement, par rapport à la norme, cette fameuse norme dont j'ai parlé, c'est à cet instant-là qu'on finalise un objet technique qui est le master du DVD qui doit pleinement respecter la norme. Et par exemple, il y a un prestataire en Hollande dont l'unique métier est de contrôler si votre DVD va marcher dans les lecteurs. Ils ont 200 lecteurs de DVD divers et variés et ils testent et ils vous disent si votre DVD il est ok, quel défaut il a, etc. Et on a vu l'exemple tout à l'heure par rapport à Disney. Je peux vous dire que ça leur a coûté extrêmement cher de récupérer tous leurs DVD, de refaire l'autorique, de les redupliquer et de les relancer dans le commerce. Ça leur a coûté très cher. Donc on a largement intérêt en tant qu'éditeur à investir suffisamment à cette étape-là purement technique pour être bien certain que son DVD va pouvoir être vendu correctement et que les gens vont pouvoir le voir. Donc ces opérations techniques-là ne sont pas à négliger et représentent un certain coût. Une fois que mon master de DVD est prêt, là je m'approche quand même, enfin j'ai déjà pas mal mangé dans mes 8 euros, eh bien il faut tout simplement que je le duplique, que je le copie en un certain nombre d'exemplaires. Et ça, ça a un coût aussi, évidemment. Donc, si vous voulez, le coût dépend beaucoup du packaging, comme on dit, c'est-à-dire que un DVD très standard dans son boîtier en plastique qu'on appelle le boîtier Amaret, imprimé en quadri, ça revient, si j'en fais à partir de 2-3 000 exemplaires, ça revient à 50 centimes d'euros la galette et 50 centimes d'euros le boîtier, la jaquette imprimée, etc. Ça revient à peu près 1 euro pièce la duplication du DVD. Mais si par contre je prends ce qu'on appelle un digipack, vous savez c'est les boîtiers un petit peu cartonnés dans lesquels on peut coller un livret, etc. Ben mon 1 euro il se transforme en 2,50 euros. Donc j'ai des frais de fabrication. Après ben, quand on a des coffrets des éditions luxe, collector, etc. qui sont un argument de vente très fort parce que c'est un vrai objet qu'on achète, c'est un vrai objet éditorial un DVD. Et je fais une utilisation là-dessus, c'est vraiment ça que le DVD a apporté en plus par rapport à la VHS. La VHS, c'était un machin qui nous permettait de voir un film. Un DVD, c'est un vrai objet éditorial et un lien avec le livre, quoi. Donc en fonction du nombre d'exemplaires que je tire, et ben, j'ai aussi des frais. Et donc vous voyez, sur mes 8 euros, j'ai au moins 1 euro par exemplaire pour la simple duplication. Et puis il y a une dernière chose qui là se répartit entre l'éditeur et le diffuseur, c'est la campagne. campagne publicitaire, le marketing. C'est-à-dire que ça aussi, ça coûte de l'argent. Quand je sors mon DVD, eh bien, je paye une attachée de presse pour en faire parler dans la presse. J'achète des espaces publicitaires dans tel ou tel journal par rapport à la cible, comme on dit, de personnes que je vise, c'est-à-dire le type de personne à qui je vends mon DVD. Et ça, ça a un coût ben, aussi. Donc, ben, finalement, vous voyez que dans le DVD à 20 euros, ben, celui qui gagne le plus, c'est la FNAC. Clairement, mais si vous voulez, la FNAC, c'est pareil, on ne va pas raconter l'histoire de la FNAC, puis je ne sais pas exactement comment ça marche la FNAC, mais enfin, il y a des gens qui travaillent, etc., ils gagnent beaucoup d'argent, oui, mais enfin, ils ont aussi des frais, enfin, voilà, donc de stockage, de que sais-je, quoi, de salaire, etc. Donc voilà, alors maintenant, là on est sur le DVD à 20 euros, donc vu tout ce que je vous ai raconté, vous allez me dire, mais c'est impossible un DVD à 6 euros, comment ça peut exister? Si vous voulez, il se trouve que les droits, le coût des droits, le coût des retirages, c'est-à-dire que si j'ai fait un DVD un jour, que j'ai déjà toute ma fabrication, que j'avais acheté des droits pour un certain temps, que j'avais investi beaucoup à la base quand j'ai fait de la promo, mais que 3-4 ans après, en gros, les ventes initiales de mon DVD sont terminées, mais moi j'ai toujours mes droits, tout est fait, et finalement, la seule chose que ça va me coûter, je fais pas de pub, je vais dans des soldeurs ou je ne sais quoi, la seule chose que ça va me coûter, c'est de 1 euro de duplication, et puis ensuite, sur mon prix de vente, les 60% de diffuseurs, distributeurs et points de vente, eh bien, on peut avoir tout d'un coup des DVD, dans la mesure où ils ont déjà été rentabilisés, qui tout d'un coup coûte beaucoup moins cher et pourtant c'est exactement le même contenu. Et c'est, si vous voulez, c'est vrai que quand on le raconte comme ça dans les détails, on comprend pourquoi. Mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, dans la mesure où on voit sur le même étal ou juste à côté un DVD à 20 euros et un autre qui est équivalent en fait à 6 euros, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Et si vous voulez ça, on a, je vais prendre un parallèle avec le livre. Si vous voulez, en France, on a eu la chance, vraiment la chance, que Jacques Lang, lorsqu'il était ministre de la Culture, fixe le prix du livre. C'est-à-dire que le prix du livre, il est fixé. C'est-à-dire que le libraire ne peut pas décider lui-même du prix d'un livre. Le prix d'un livre, c'est complètement, enfin, je veux dire, c'est, la loi a son mot à dire là-dedans. C'est pas du tout le cas pour le prix du DVD. Il n'y a aucune règle. C'est-à-dire qu'un DVD, je l'achète le prix que je veux, je le vends le prix que je veux. C'est totalement, il n'y a aucune régulation législative, si vous voulez, de ça. Et ce qui fait que du coup, on se retrouve dans des choses assez paradoxales et où finalement, au bout du compte, celui qui gagne, c'est un petit peu celui qui fait plus de volume. Et c'est pour ça que, en tant qu'un petit éditeur de DVD, qui va travailler, investir de l'argent, trouver des subventions sur des choses de patrimoine, restaurer les films, etc. Et qui va vendre son DVD 35 euros parce qu'il n'a pas le choix, parce que vu tout le boulot de qualité qu'il a fait, il n'a pas le choix. S'il le vend moins, il peut pas. Dans ce cas-là, le DVD n'existe pas. Et ça répond un petit peu à votre question par rapport à certains films. Eh bien, si vous voulez, c'est vrai que ce type-là, il a, je sais pas moi, un film de patrimoine très chouette, je sais pas moi, L'Aurore de Murnau, et puis à côté on a un Chaplin édité par MK2, j'ai rien contre MK2, mais je pense là, qui va être deux fois moins cher. Mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, il y a un truc qu'on ne comprend pas. Et c'est difficile pour le petit, parce qu'il n'a pas non plus un catalogue énorme, donc il ne peut pas faire, il a besoin aussi d'une certaine marge sur chaque DVD, parce qu'il n'en vend pas des centaines de milliers, si vous voulez. Ça, c'est aussi une chose importante. Et donc, oui, prenez le micro parce que... Oui. Alors, si vous voulez, ça, c'est... L'univers de la restauration par rapport aux films de patrimoine, c'est un univers que je connais très bien parce qu'on en fait beaucoup, des DVD de patrimoine. Donc, il arrive que ce soit, je vais vous prendre un exemple qui va illustrer, va répondre à votre question. Il y a deux ans, un peu plus de deux ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu la réédition en DVD d'un film de Jacques Tati qui s'appelle Mon Oncle. D'ailleurs, c'était en deux versions. C'était Mon Oncle, My Uncle, version française et version américaine, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait deux versions de ce film. C'est nous qui avons fait l'autorig de ce enfin, le suivi de projet, l'encodage et l'autorig de ce DGD. Et si vous voulez, je prends cet exemple parce qu'il est intéressant. L'éditeur, l'ayant droit aujourd'hui des films de Tati, c'est Jérôme Deschamps, le metteur en scène Jérôme Deschamps, qui a monté du coup une société de production et d'édition vidéo, et puis qui a décidé de restaurer Mon Oncle pour à la fois le sortir en salle et l'éditer en DVD. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi lui-même énormément d'argent. Il se trouve que 2 ans avant, il avait fait la même opération avec Playtime de Jacques Tati, qui est le film qui avait ruiné Tati en son temps. Et il se trouve qu'il a restauré le film, Jérôme Deschamps, ça lui a coûté extrêmement cher. Il a fait une édition DVD. Et il se trouve qu'il y a eu un succès énorme, à la fois en salle et en DVD. Il a gagné de l'argent. Sur Mon Oncle, 2 ans plus tard, Mon Oncle a été par contre un grand succès de Tati. Il fait la même chose, c'est-à-dire qu'il restaure le film, 3 millions d'euros, copie argent de frais de restauration, donc il a énormément investi lui-même, parce qu'il avait, et puis parce que, je sais pas, c'est son tempérament de, il a de l'argent, il le dépense, après il en a plus, il est dans la merde, il en trouve d'autres, hein, et du coup, c'est chacun un petit peu ce moment-là. Et puis il a eu aussi des subventions, il a eu des soutiens de la Fondation GAD, du ministère de la Culture, voilà. Il restaure le film, et en fait, pendant le travail, on se rend compte qu'il existe, en fait, pas un film, mais il existe 2 films. Et ça, c'était une découverte étonnante, et c'est vrai que quand on se lance dans la restauration, on découvre des choses comme ça, on découvre qu'en fait, Tati, ce film avait eu l'Oscar en 1954 ou 1955, à Hollywood, en fait, il avait fait une version française et une version américaine, mais avec des scènes. C'est-à-dire, par exemple, dans la version française, il y a écrit « école », dans la version américaine, il y a écrit « school », c'est-à-dire qu'il y a des décors différents qui ont été construits. Les acteurs jouent en anglais. Il y a, si vous voulez, tout un travail sur la bande-son, dans la version française, celui qui a un accent italien, en fait, il a un accent parigot dans la version anglaise. Enfin, il y a tout un travail. Les acteurs, il a tourné 2 fois les scènes, alors il y a quelques scènes en commun, mais il y a toute une partie du film qui est complètement différente. Et du coup, Jérôme Deschamps, découvrant ça et découvrant que la copie existante en état à peu près correct, c'est la copie française, et que par contre la copie américaine n'existe même pas, il reste des bouts négatifs par-ci par-là, enfin, elle n'existe pas, donc il se dit, mais ça c'est génial, c'est fabuleux, je vais recréer cette version américaine du film qui est un autre film. Il fait ça. Ça coûte très cher la restauration argentique, c'est-à-dire la restauration de la pellicule 35 mm. Il sort le film en salle à l'été 2005. Un petit peu orienté plutôt vers les enfants. Et c'était My Uncle, donc un film américain, sous-titré en français. Alors stratégiquement, c'était sans doute pas une bonne idée, parce que personne n'a compris ce que c'était que ce film, pourquoi, enfin, vous voyez, autant dans l'histoire c'était passionnant de découvrir ça, autant pour le spectateur lambda et pour le papa que je suis éventuellement qui va amener ses enfants, bah, sous-titré en français, c'est pas trop l'idée, quoi. Enfin, ça fonctionne pas pour les enfants. Du coup, le film s'est complètement planté en salle. Et par contre, le DVD qui est sorti 6 mois après, en octobre 2005, a été la meilleure vente des DVD de patrimoine, hein, à Noël 2005, si vous voulez. Donc le DVD, par contre, c'est très bien vendu. Donc voilà, une petite histoire sur la restauration d'un film qui, là, a été prise en charge par un éditeur. Et il est vrai que le plus souvent, c'est l'éditeur qui prend en charge, disons dans 90% des cas, c'est l'éditeur qui prend en charge la restauration du film et qui essaie de trouver des soutiens, des subventions. Il y a des programmes européens d'aide, etc., pour ça. Voilà, pour répondre à votre question. Oui, prenez le micro.
Oui, tout à l'heure, vous mentionniez les tests que vous devez faire avant de vendre le DVD et tests techniques, notamment avec un prestataire hollandais. Ma question, c'est est-ce que vous vendez quand même ces DVD si vous découvrez des incompatibilités? Et dans quelle mesure vous le faites? Et question conséquente, est-ce que certains mauvais constructeurs de lecteurs DVD vont pas tirer vers le bas des capacités du DVD et ainsi forcer les constructeurs DVD à se limiter sur ces fonctionnalités?
Alors, votre question est très intéressante parce qu'elle est très stratégique. Alors, concrètement, il y a, si vous voulez, au fur et à mesure que le temps a passé, malgré tout, les platines de lecture de DVD de salon sont devenues de plus en plus tolérantes, malgré tout. Hein. Donc, même un DVD vraiment fait à la va comme je te pousse, il passera à peu près partout aujourd'hui, malgré tout. Enfin, pas toujours, hein, mais bon, ça passe un peu mieux qu'avant. Ça, c'est une première chose. Ce qui fait que, honnêtement, je ne connais pas d'éditeur, aucun, qui fait appel à ce prestataire qui est Philips. En fait, hein. Je ne sais pas, je pense que vraisemblablement sur des très très grosses éditions, ils y font appel. Mais par exemple, sur mon oncle My Uncle, il y a eu 40 000 exemplaires vendus. On n'a pas fait appel à Philips. Hein. Donc si vous voulez, juste pour illustrer, dans ce type de situation, la responsabilité, elle en incombe au studio d'autoring, c'est-à-dire en l'occurrence à nous. C'est-à-dire, c'est vrai que quand vous livrez votre master pour la duplication, voilà, vous avez fait gaffe, mais vous avez quand même une petite gloops, c'est-à-dire que j'espère que tout va bien se passer. Parce que si l'éditeur de Disney fabrique lui-même ses DVD, mais si l'éditeur met son DVD en vente et qu'il y en a la moitié qui ne marche pas chez les gens, c'est pas lui qui est responsable, c'est le studio d'autoring. Donc si vous voulez, il y a une responsabilité assez importante à ce niveau-là. En ce qui concerne l'idée de tirer vers le bas la norme, etc., c'était ce qui était arrivé à Disney avec le Roi Lion, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils avaient trop demandé, ils avaient respecté la norme, mais ils lui avaient trop demandé. Je vais vous prendre un exemple. Nous, on fait des DVD aussi très spécifiques, des DVD d'artistes. Par exemple, on a fait un DVD il y a un an d'un artiste qui s'appelle Nicolas Boone, où son film, c'est un film aléatoire. C'est-à-dire que vous mettez le DVD, et en fait, il y a toutes les séquences du film qui sont sur le DVD et qui s'enchaînent de façon aléatoire. Donc à chaque fois que vous le mettez, vous voyez, c'est une histoire, enfin c'est la même histoire, mais racontée complètement différemment que vous voyez. Et ce qui n'est pas si simple, c'est que le DVD en question, le film dure une heure, et il dure toujours une heure, c'est-à-dire que on lit une séquence au hasard, une autre au hasard, une autre au hasard, mais le lecteur DVD garde en mémoire celles qui ont été lues pour ne pas les relire une deuxième fois. Le film fait toujours la même durée. Et ça, c'est possible de faire ça sur un DVD. Je peux vous dire que c'est compliqué. On a passé beaucoup de temps à le mettre en place. Mais on peut faire ce genre de choses. Et si vous voulez, nous, on a une quinzaine de lecteurs, hein, de lecteurs différents. Si vous avez vraiment un lecteur sur lequel plein de DVD passe pas, qui se met en erreur, etc., ça m'intéresse. Parce que voilà, plus on a les lecteurs les plus sensibles, plus ça nous intéresse, parce que ça nous permet de tester les limites de nos DVD. Et si vous voulez, ce DVD-là, par exemple, on avait fait une première version qui marchait sur ordinateur, qui marchait sur un certain nombre de lecteurs, et qui, pour la moitié des lecteurs à peu près, les faisait planter au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils s'arrêtaient, ils se mettaient en arrêt sur image, et il fallait l'éteindre et le rallumer. Et on a dû complètement retravailler la manière dont le code de programmation le divisait en des morceaux, enfin bref, parce que, et puis maintenant, en gros, ils passent à peu près sur tous les lecteurs. Bon, il y en a certains qui plantent au bout d'un certain temps, enfin beaucoup moins qu'au début. Donc, si vous voulez, honnêtement, je ne suis pas sûr que chez les constructeurs, il y ait une réflexion là-dessus. Je crois que les constructeurs, simplement, ils font ce qu'ils peuvent. Vous savez, on ne se rend pas compte, mais dans les usines en Chine où ça débite, entre le moment où on décide de faire quelque chose et le moment où on le fait, ça peut aller assez vite. Et on n'a pas forcément des ingénieurs qui valident tout absolument dans les moindres détails. Hein. Donc, ces gens-là, ils sont dans la vraie vie comme nous, hein, et puis l'erreur est humaine. Donc, voilà. Alors, une remarque sur le contenu qui me semble important, sur le contenu du DVD, ce que le DVD a apporté de nouveau aux gens, pour expliquer un petit peu son succès, et puis aussi sur ce que le DVD a changé dans le langage cinématographique. Parce que moi, je prétends que le DVD a changé de langage cinématographique. Pour faire un tout petit peu d'histoire, si vous voulez, la façon de raconter quelque chose avec l'audiovisuel, enfin avec les images animées et les sons, a toujours dépendu de la technologie. C'est-à-dire que lorsqu'en 1895 le cinématographe est inventé, il n'y a pas de son synchrone. Ben, on va raconter, et il n'y a pas de couleur non plus. On va raconter des histoires sans son synchrone. On va se débrouiller avec la technique qu'on a. Le jour où le son synchrone arrive, enfin, il avait été inventé bien avant, mais enfin, le jour où il se déploie commercialement en 1927 avec le film Le Chanteur de Jazz, ça change complètement les possibilités des cinéastes. Et d'ailleurs, ce que d'aucuns disent, c'est que, juste pour cet exemple-là historique qui, me semble-t-il, éclaire un petit peu les choses, la caméra, dans les années 10, 20, et surtout dans les années 20, il y a eu des films absolument fabuleux, des films d'Abel Gance, des films des réalisateurs russes, enfin, avec des caméras mobiles, des trucs incroyables. Le jour où le son synchrone arrive en 1927, une caméra, ça fait un boucan d'enfer à l'époque. C'est 4 machines à coudre rassemblées, mécaniques, vous voyez. Eh bien, si on veut enregistrer du son synchrone, il faut mettre, on entoure ces caméras dans une sorte de cage de plomb. Donc la caméra, je peux vous dire qu'elle est moins mobile que lorsqu'il n'y avait pas de son. Et il y a certains théoriciens du cinéma, et pas des moindres, qui disent que le cinéma, et c'est juste, d'ailleurs moi je suis tout à fait d'accord, que le cinéma a complètement régressé dans le langage cinématographique à l'arrivée du parlant. Et d'ailleurs c'est pas un hasard, on dit parlant, on dit pas sonore. C'est dire que c'est la parole qui était au centre. Donc en gros le théâtre filmé, dans tout ce qu'il a de plus banal, hein, c'était quand même ça le cinéma parlant au début. Et donc si vous voulez, la technique... Elle change la manière de raconter les histoires. Quand la couleur arrive aussi, ça change des choses. Quand les écrans larges arrivent, ben tout d'un coup, les cinéastes s'expriment différemment, etc. Et quand le DVD arrive, dans la mesure où, et là-dessus ils ont été quand même assez forts, hein, tous les industriels qui ont réfléchi sur le DVD, parce que c'est eux qui ont imaginé la possibilité de menus, de bonus, de chapitrage. Ils ont imaginé aussi des trucs qui n'ont jamais servi, comme par exemple le multi-angle. Ça, le multi-angle, c'est-à-dire le fait de pouvoir, pendant que le film est en train de diffuser, changer d'angle, c'est-à-dire voir la scène sous plusieurs angles, c'était l'une des propositions qu'ils ont faites. Mais à part dans certains DVD de films porno, ça n'a jamais été vraiment utilisé, hein, le multi-angle. Et tout le monde s'en fout du multi-angle. Il y a autre chose qu'ils ont inventé qui est plus du tout utilisé, qu'on voyait au début sur les DVD et qui est plus du tout utilisé, c'est ce qu'on appelle le lapin blanc. Alors le lapin blanc, on appelle ça le lapin blanc parce que c'est le DVD du film Matrix, qui est un petit peu le DVD inaugural de l'édition DVD, hein, qui teste un petit peu toutes les technologies. Et il se trouve que dans Matrix, je ne sais pas si vous avez vu Matrix, mais à un moment donné, le personnage principal, une jeune femme, enfin, il a reçu un message où on lui dit « Tu dois suivre le lapin blanc ». Et puis, une jeune femme arrive, elle a un tatouage de lapin, enfin bref, et il suit le lapin blanc, enfin bref. Et du coup, pendant que le film se déroule, à certains moments dans le film, il y a une petite icône de lapin blanc qui apparaît. Et si je clique, ça m'amène à un bonus contextualisé, c'est-à-dire à un truc qui va me raconter comment cette scène a été faite, et après je retourne au continuum du film. Ça, c'est une possibilité offerte par le DVD, et c'est vrai qu'au début du DVD, moi je me rappelle, on était tous fous de ça, génial, pendant le film, on peut en savoir plus, etc. Mais en réalité, on s'est rendu compte que les gens, vous et moi, on n'a pas du tout envie de ça. Je veux dire, quand on est en train de regarder un film, on regarde un film, on n'a pas envie de se couper pour aller faire autre chose. Par contre, après avoir vu le film, retourner voir des bonus et en savoir plus, ça oui. Mais l'intervention en plein milieu du film et le truc qui apparaît, le lapin blanc qui apparaît tout le temps dans Matrix, c'est plutôt emmerdant qu'autre chose, parce que voilà, c'est pas le film, quoi. Et donc, cette notion de bonus, de film complémentaire, si vous voulez, ça a apporté énormément, parce que tout d'un coup, j'avais... et on est un peu dans le mythe aussi du cinéma, hein. J'avais le film et puis j'avais le making of, j'avais les interviews, etc. Est-ce que ça a changé dans les films eux-mêmes? C'est que avant le DVD, on avait des photos de plateau, on avait de temps en temps une équipe qui faisait un petit reportage, bon. Et puis voilà, c'est tout. Mais aujourd'hui, un film sans making of, ça n'existe tout simplement pas. Il y a forcément un making of du film parce qu'on imagine le DVD derrière. Et puis tout ce qui est bêtisier, etc. Mais je veux dire, il se passe des trucs un peu marrants sur le tournage. Et ben aujourd'hui, on va les filmer systématiquement parce qu'on sait très bien que finalement, ce sera utilisé derrière. Et dans les films eux-mêmes, on trouve, je pense que c'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais je pense à ce film-là comme ça, je pense à Georges de la Jungle, Georges de la Jungle 2, par exemple, c'est des films Disney, bon, pour enfants. Dans le film lui-même, on parle des bonus DVD. Et il y a tout un rapport comme ça de regard caméra, etc. Et il y a complètement la dimension de ce qu'on retrouvera après, de ce qu'on fait pour le bêtisier, etc. Chose qui n'existait pas du tout avant le DVD. Donc voilà, ça intervient dans le contenu même des films, les nouvelles possibilités de circulation qu'on a. Et si on en a le temps, je parlerai aussi des DVD haute définition et de ce que ça peut aussi modifier dans le contenu même des films. Bon, je ne sais plus à quelle question je répondais là, mais... Oui, si, je répondais pas à une question, je vous parlais de ce que le DVD a modifié dans le contenu des films eux-mêmes. Alors, maintenant, pour si vous en êtes d'accord, je peux vous parler un petit peu plus en détail de la chaîne de fabrication elle-même, c'est-à-dire une fois qu'on a acheté les droits, qu'on a fabriqué les bonus, et avant de faire la duplication et la distribution, comment ça se passe concrètement pour fabriquer un DVD? Est-ce que ça vous intéresse allez. Prenez un micro. Oui. Bah je on va faire la chaîne et puis les métiers en même temps. Alors, si vous voulez, il y a les métiers de la production et puis les métiers de la vente, on va dire, hein, de l'exploitation. Si vous voulez, il y a production, édition, exploitation. Bien sûr, il y a certaines sociétés qui sont complètement intégrées. Honnêtement, par rapport à ça, il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que vous prenez Disney, par exemple. Disney, prenons cet exemple. Eux, ils ont intégré l'ensemble de la chaîne sauf l'exploitation. C'est-à-dire qu'ils produisent leurs films, ensuite c'est eux qui fabriquent les DVD, ils ont leur studio d'autorig, comme on dit, en interne, hein. Ils ne font pas appel à des prestataires externes, à des sociétés externes. Par contre, ils ne pressent pas, ils ne dupliquent pas eux-mêmes, hein, leur DVD, ça ils le font faire à l'extérieur, le pressage, comme on dit. Et puis ils ont une société de distribution qui s'appelle Buena Vista et qui distribue et puis qui s'occupe à la fois de la distribution cinéma et de la distribution éditoriale. Hein. Donc eux ils ont intégré beaucoup de choses, mais ça c'est vraiment variable et je pense que intégrer l'ensemble verticalement comme ça, l'ensemble d'une chaîne, c'est pas forcément réservé à des gros éditeurs. Il y a aussi des tout petits éditeurs qui intègrent la chaîne parce que, si vous voulez, si le petit éditeur, prenons, je sais pas moi, Revoir Vidéo, par exemple, qui est un éditeur qui édite des films expérimentaux, on travaille beaucoup avec eux en VHS à l'époque et puis en DVD maintenant. Ben, ces gens-là, ils vendent pas des films expérimentaux déjà, c'est pas ce qu'ils s'achètent de plus, donc ils en vendent pas des masses, donc ils ont un prix de vente assez élevé, etc. Et puis ils ont des frais importants parce qu'ils restaurent les films et tout. Ces gens-là, quand ils vendent un DVD eux-mêmes via leur site internet, ben, je peux vous dire que justement, ils gagnent quand même 60% de plus que s'ils passent par la FNAC. Donc vous voyez, ça fait une sacrée différence. Donc ces gens-là, ils ont largement intérêt à intégrer pas mal d'étapes de la chaîne. Et si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un travail de niche. C'est-à-dire que des gens intéressés par ce type de DVD, il y en a. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Et ce qui compte, c'est d'être présent pour les clients potentiels. Nous, on est aussi un tout petit éditeur, vraiment microscopique. On est avant tout prestataire, mais on a édité quelques DVD de documentaires sur des chanteurs qui sont vendus dans des sites spécialisés sur la chanson française, voilà, qui se vendent là. Et c'est vrai que les bénéfices pour nous sont bien supérieurs à une distribution par la FNAC qu'on fait aussi, sur laquelle on gagne beaucoup moins, quoi. Donc ça, il n'y a pas vraiment de règle à ça. Alors, concernant la fabrication en elle-même, il y a des techniques particulières, c'est-à-dire que, et c'est important de le comprendre, sur un DVD, comme vous le savez sans doute, on peut mettre 4,5 gigas de données. Alors, je suppose, vous me dites, si c'est évident pour vous ce que c'est qu'un giga, on y va. Mais est-ce qu'il y a des gens pour qui ces choses-là sont pas forcément évidentes ? C'est évident pour tout le monde ? Parfait. Oui ? Prenez un micro.
Est-ce que vous pouvez expliquer
les gigas ?
Parce que moi, je
ne
comprends pas bien.
Oui, oui. Ok, sans problème. Et puis, il y avait une autre question ?
Mais c'était la capacité, parce que un gigabit, quand c'est des données, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on met justement dans 4,7 gigabits en fantaisie, le bonus, un chapitre, hein,
okay. D'ailleurs, ce ne sont pas des gigabits, mais des gigabytes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Si vous voulez, j'ai envie de faire juste très rapidement une petite explication de ce que c'est que le numérique. Parce que si vous voulez, tout ça, c'est numérique. Et souvent, on dit numérique, tout ça, ça paraît un peu mystérieux. Mais en réalité, c'est quelque chose de très simple, le numérique. Et voilà, je vais vous l'expliquer très rapidement. Si vous voulez, prenons l'exemple du son, parce que... Non, on va parler de l'image, parce que sinon après ça fait trop. On va parler de l'image. Faire une photo, parce que c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça se fait qu'il peut y avoir un film sur un DVD sur une galette de 12 cm. Ça paraît un peu mystérieux. Mais en fait, vous verrez, quand on a compris le truc, c'est très simple. Faire une photo. Comment ça marche ? Comment ça se fait qu'on a... comment ça marche de faire une photo ? Si vous voulez, vous connaissez sans doute la chambre noire. Je prends une boîte à chaussures. D'un côté, je découpe, je mets un papier calque. Et de l'autre côté, je fais un tout petit trou. Il se trouve que les rayons lumineux vont en ligne droite. Si mon trou est tout petit, eh bien, il se trouve que, si vous voulez, il y a une lumière qui éclaire un objet et l'objet réfléchit les rayons lumineux dans tous les sens. Et si j'ai un simple petit trou, il va y avoir simplement une toute petite partie des rayons lumineux qui vont passer. Donc le rayon lumineux qui arrive de là-haut, là, hop, il passe par le trou et il continue à l'intérieur de ma boîte. Et ce qui fait que si j'ai un tout petit trou, eh bien, sur mon papier calque au fond de ma boîte à chaussures, vous pouvez le faire vous-même, je vais voir une image inversée à l'envers de ce qui est devant ma boîte. Très sombre, mais à l'envers. Faites l'expérience, vous prenez vous-même une boîte d'allumettes, enfin, vous mettez un papier calque. Alors, vous avez intérêt, vous, à être un peu dans le noir parce que l'image, elle est très sombre, ce qui est normal, il y a très peu de lumière qui passe par le petit trou. Mais c'est en réduisant, si vous voulez, le lieu par lequel peuvent passer les rayons lumineux qu'on arrive à fabriquer une image. Ça s'appelle la chambre noire. Ben, ça a été inventé il y a bien longtemps. Les peintres de la Renaissance utilisaient la chambre noire pour pouvoir faire des tableaux et respecter bien les perspectives, etc. C'est un truc connu. Fabriquer une image comme ça, qu'on peut recopier, c'est connu, c'est facile. Mais cette image, elle est complètement éphémère. J'enlève ma chambre, je ne peux pas l'enregistrer. Et il se trouve qu'en France, au 19e siècle, il y avait un chimiste du nom de Nicéphore Niépce qui a constaté qu'une solution, c'est-à-dire il faisait une sorte de mixture de fécule de pommes de terre et de sel d'argent, voilà. Et ils se rendaient compte qu'à la lumière, quand c'était exposé à la lumière, ça noircissait. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, une patate, si on la coupe et qu'on la laisse, ça noircit un petit peu. Alors c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Et du coup, l'idée qu'il a eue, et qui est finalement pas si compliquée que ça, c'est d'enduire une feuille de papier de son produit qui noircit à la lumière, de le coller au fond de la boîte, et du coup, l'image, elle a certaines parties plus sombres, certaines parties plus claires. Donc la première photo du monde, qui date de 1837, je crois, 47, je sais plus, il a dû la laisser exposer à la lumière pendant 2 jours, pour que ça puisse imprimer, si vous voulez, sur son truc. Et du coup, les endroits, le ciel avait fortement éclairé, donc ça avait noirci aux endroits du ciel, parce qu'il a fait une photo de sa fenêtre. Et les bâtiments qui étaient un petit peu plus sombres, c'était moins noirci. Donc il a obtenu une image en négatif. C'est ça le négatif, vous voyez. Et ensuite, il suffit de faire le phénomène inverse, c'est-à-dire que au lieu de mettre mon truc noirci sur un papier blanc, je le mets sur un celluloïde transparent. Et derrière, je mets exactement la même pellicule sensible et j'éclaire au travers de mon négatif, eh bien, les zones qui sont très sombres, par conséquent, le ciel, c'est sombre, donc ça va bloquer la lumière, et les zones claires vont laisser passer la lumière. Donc je vais avoir un négatif du négatif, c'est-à-dire une photo positive, c'est-à-dire que mon ciel, il est enfin clair. Donc en fait, une pellicule négative et une pellicule positive, en fait, c'est la même pellicule. Simplement, vous voyez, c'est une étape à un autre moment. Donc, on a trouvé un moyen photochimique, comme on dit, de fabriquer, de fixer les images. Donc, disait Fornier, c'était très lent, on a réussi à aller plus vite, etc. Je vous passe l'histoire du cinéma. Le cinéma, c'est 25 images par seconde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement dans le cinéma, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'est 25 photos ou 24 quand on est dans une salle de cinéma, qui s'enchaînent les unes derrière les autres. On a une illusion du mouvement, mais le mouvement n'existe pas. On a simplement pris plein de photos les unes après les autres. Et d'ailleurs, vous savez, un film cinématographique, c'est une bande verticale et on a des images les unes après les autres. Ce film, il défile dans un projecteur et en fait, les images s'arrêtent les unes après les autres devant l'objectif pour être projetées sur l'écran. Et en fait, une image s'arrête devant l'objectif. La lumière passe, on voit l'image sur l'écran. Ensuite, la lumière est coupée par ce qu'on appelle un obturateur. Le film, il défile. Il va à l'image suivante qui s'arrête. Ça se rouvre et il y a à nouveau la lumière. Donc en fait, quand on est dans une salle de cinéma, pendant la moitié du temps, on est dans le noir. On ne se rend pas compte du phénomène de la persistance rétinienne. Parce qu'en fait, quand on regarde une lumière forte, on se rend bien compte que ça s'imprime un petit peu. Donc on ne se rend pas compte. Mais quelqu'un qui n'aurait pas le phénomène de la persistance rétinienne, dans une salle de cinéma... On ne comprend rien, ça clignote tout le temps, ça ne fait que clignoter en fait, sur l'écran, réellement, physiquement. Bref, ça pour dire que le mouvement n'est qu'illusion, le mouvement il n'existe pas. Il est dans le film, il se fait dans notre tête, il n'existe pas devant nous. Maintenant passons au numérique. On a pu, quand on fait sa solution de celle d'argent, on n'a pas de pixels, on n'en est pas encore au numérique. Alors, en fait, c'est des corps chimiques, quoi. Donc, on pourrait trouver vaguement des pixels, mais enfin, c'est pas des carrés, c'est des, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Et avec le numérique, avec l'électronique, déjà, au lieu de mettre une pellicule photographique comme ça, imaginez, vous savez ce que c'est une cellule photoélectrique? Cellule photoélectrique, c'est un petit capteur petit. Quand je lui envoie beaucoup de lumière, ça génère un fort courant électrique. Quand je lui envoie très peu de lumière, ça génère un tout petit courant électrique. D'accord ? Imaginons que à l'arrière de ma boîte noire, de ma chambre noire, je mets, 10 cellules photoélectriques sur 10. Eh bien, elles vont capter chacune, comme le sel d'argent qui noircissait, chaque cellule photoélectrique va capter l'endroit où c'est sombre. À la sortie de la cellule photoélectrique, il n'y aura pas beaucoup de courant. Et puis l'endroit où c'est clair, comme voilà, il y a, des photons qui font réagir la cellule, ben, il va y avoir plus de courant. Donc si j'enregistre ça d'une manière ou d'une autre, eh bien je vais avoir une sorte de grille, j'enregistre ça sur une bande magnétique avec un peu de courant, un peu plus, un peu moins, un peu plus, un peu moins. Et puis si je renvoie du courant dans des cellules photoélectriques, eh bien, je vais pouvoir recomposer mon image. Vous voyez, c'est une façon électronique de capter une image par pixel et puis de la recomposer. Et c'est clair ça, ou vous dites, hein, si jamais il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Hein. Et alors le numérique, c'est exactement ça. Je simplifie à outrance hein, quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le numérique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, un DVD, c'est 720 pixels de large sur 576 pixels de haut. C'est ça, l'image qu'on a sur un DVD. Hein. 720 sur 576. Et imaginons pour le moment qu'il est noir et blanc. Hein. Couleur, c'est un tout petit peu plus compliqué, simplifions un peu les choses. Eh bien, chaque pixel, il est plus ou moins noir, gris, blanc. Hein. Et l'ensemble de ces pixels les uns à côté des autres, eh bien, ça fait une image. Donc, on comprend qu'une image numérique, c'est compliqué, mais enfin, en même temps, c'est pas si compliqué que ça à faire, quoi. Je veux dire, même avec des moyens un peu manuels, je peux faire une image numérique super primitive, quoi. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vidéo, le cinéma, c'est 24 images par seconde, la vidéo, c'est 25, c'est presque la même chose. Si vous voulez, 720 par 576 pixels, ça prend quand même de la place. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est quoi le numérique? Le numérique, c'est des 0 et des 1. C'est-à-dire que sur un DVD, si vous pouviez regarder au microscope la surface du DVD, qu'est-ce qu'il y a? Il y a en fait un sillon qui part du centre. C'est comme un disque micro-sillon. Donc un sillon comme ça continue. Et sur ce sillon, il y a des micro-cuvettes où il n'y en a pas. Donc elles sont toutes petites, hein, les micro-cuvettes. Et sur les Blu-ray et HD-DVD, elles sont encore plus petites. Et en fait, soit il y a un creux, soit il n'y a pas de creux. S'il y a un creux, ça veut dire que c'est un 1. S'il n'y a pas de creux, ça veut dire que c'est un 0. Donc en fait, sur un DVD, c'est des milliards de 0 et de 1, en fait, tout simplement. Il y a juste ça sur un DVD, rien d'autre. Il y a la même chose sur un disque dur, il y a la même chose sur un CD, il y a la même chose sur une clé USB, il y a la même chose qui transite par Internet. C'est des 0 et des 1, rien d'autre que des 0 et des 1. Alors, si vous voulez, vous allez me dire, bah ouais, avec des 0 et des 1, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si vous voulez, ça, c'est le principe de la numérisation, c'est-à-dire que imaginons mon image DVD qui fait 720 points sur 576. Imaginons qu'elle n'a pas de nuance de gris, d'accord? C'est juste soit du noir, soit du blanc. Avec du noir et du blanc, je peux quand même faire une image. Elle n'a pas beaucoup de nuances, mais enfin, quand même, je peux faire une image avec du noir et du blanc. Et bien, imaginons que quand il y a du noir, c'est 0, et quand il y a du blanc, c'est 1. Et bien, je peux regarder mon image et puis même noter manuellement 1, 0, 0, 1, etc., ligne par ligne. Et je peux même la dessiner moi-même, enfin voilà, c'est une image numérique, il n'y a pas de problème. Et je peux l'enregistrer avec la technique du DVD, ben, je peux creuser des cuvettes dans une surface en plastique, parce que c'est rien que ça un DVD, hein, c'est du plastoc dans lequel soit il y a de la cuvette, soit il n'y a pas de cuvette, c'est pas très compliqué quoi. Donc, ça paraît simple, mais en fait, là aussi tout de suite, il faut une norme, parce que ok, j'ai mes 720 pixels sur 576, mais comment je le sais? Enfin, comment je sais que tous ces 0 et ces 1, c'est une image de 720 par 576? C'est pour ça qu'il y a tout un système de normalisation des fichiers informatiques très complexes, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça marche plutôt bien, mais c'est pour ça qu'il était un temps, et c'est encore le cas aujourd'hui quand même parfois, où vous avez un disque dur Macintosh, par exemple externe, vous le branchez sur votre, il y a plein de données dessus, vous le branchez sur votre PC et vous dites, voulez-vous formater le disque? C'est-à-dire que comme il ne connaît pas le langage du Macintosh, pour lui il n'y a rien là-dessus. Il n'arrive pas, il va voir dessus mais il ne comprend rien. Donc il y a en fait une normalisation, c'est-à-dire qu'en fait, sur un disque dur, par exemple, on dit, bon, bah alors, c'est pareil pour tous les disques durs au monde, les 1000 premiers 0 et 1, ils servent à donner la marque du disque dur. Les 2000 suivants, ils servent à ça. Vous voyez, tout ça, c'est hyper défini pour que les machines puissent aller voir à l'endroit où il faut et tirer une information pertinente. Parce que sinon, des 0 et des 1, si on les prend comme ça, c'est rien, quoi. Ça n'a pas de sens, c'est du n'importe quoi. Par contre, si on sait où aller chercher, s'il y a une normalisation, par exemple, une chose toute bête, si vous faites un tout petit texte avec Word, qui pèse, disons, 1 kilo octet, sur votre disque dur,